Bonjour, merci Pascal pour cette émission et c'est l'heure de Radio Cartable 89.4 FM, la radio des enfants d'Ivry et des écoles d'Ivry. Aujourd'hui, une rediffusion. Nous avons choisi juste avant la semaine de la mémoire qui aura lieu à partir du 21 janvier, de rediffuser la rencontre de Paulette Greiner avec une classe de CM2 de l'école Einstein en juin dernier. Vous verrez, elle n'est pas montée, c'est-à-dire que nous avons laissé les échanges dans toute leur vivacité. Et c'est justement, c'était le souhait de Paulette Greiner de rendre compte de ces moments qu'elle passe en visitant les écoles depuis de longues années. Bonne écoute.
La radio des écoles d'Ivry.
Paulette Greiner, de l'Association pour la mémoire des enfants juifs déportés d'Ivry, rencontre les élèves de CM2B de l'école Einstein.
Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable.
Alors donc, ceux qui étaient là, ils me connaissent un peu, ils savent que je suis responsable de l'association qui à Ivry s'occupe, s'est occupée depuis très longtemps, depuis 19-20 ans maintenant, de retrouver tous les enfants des écoles d'Ivry et ceux qui habitaient Ivry mais qu'on n'a pas retrouvé dans les registres d'école et qui étaient des enfants juifs et qui ont été arrêtés, déportés, assassinés dans les camps. Et il y en a eu, à Ivry, on en a retrouvé 39. Alors, à l'époque de la guerre, il y avait 3 écoles primaires à Ivry. Donc, sur ces 3 écoles-là, on a retrouvé les enfants qui allaient dans ces écoles et on a mis des plaques avec leur nom dans ces écoles. Et ceux qu'on n'a pas retrouvés dans les écoles, mais qui habitaient là, on a mis une dalle en marbre qui est au parc des Cormeilles, que vous avez dû voir, qui est à côté. Et qui est à côté d'un arbre qu'on a planté, qui est symbolique, qu'on appelle l'arbre aux enfants, parce qu'il pousse, et c'est le symbole que même si eux ne sont plus là, ben la vie continue. Voilà. Alors pourquoi c'est moi qui viens raconter les histoires dans l'école, dans les écoles ? C'est surtout parce que je suis née en même temps que la guerre. Alors ne me demandez pas quel âge j'ai, vous savez à quelle date la guerre a été déclarée, donc vous ferez le calcul vous-même, hein ? Exercice de calcul. Je suis née vraiment pile poil, 10 jours près, et dans une famille, comme les enfants qui ont été déportés, dans une famille juive qui était originaire d'Europe centrale. Ils étaient arrivés en France dans les années 30, mes parents, parce qu'ils venaient donc d'un pays d'Europe centrale où il y avait déjà eu beaucoup d'arrestations, de massacres, d'interdictions de toutes sortes. Et dans ces pays-là, on pensait que la France, c'était le pays du bonheur absolu pour tout le monde. Et donc, ils étaient arrivés là. Et puis, quand la guerre a été déclarée, en 1939, ils savaient ce qui s'était passé par ailleurs chez eux, et ils se doutaient très bien que ça allait mal se passer avec les Allemands qui très vite ont envahi la France. Il faut dire que nous habitions tout à fait dans l'est de la France, à 60 km de la frontière allemande, en Moselle. Donc tout de suite, là, 8 jours après la déclaration de guerre, donc ma mère qui venait de sortir de la maternité là avec son paquet, ils sont partis, ils ont tout bouclé dans l'appartement, ils sont partis pour essayer de s'éloigner tout de suite de la frontière. Et alors je vous passe toutes les étapes, mais ça a été une très longue pérégrination pendant plusieurs années jusqu'à la fin de la guerre. à travers toute la France, en s'éloignant de plus en plus de cette fameuse frontière allemande pour s'éloigner le plus possible de l'invasion allemande. Et ils ont fini par aboutir au sud de la France, parce que vous avez, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais très vite, la France a été coupée en deux par un genre de frontière qu'on appelait la ligne de démarcation. Et au nord, la France était occupée par les Allemands, et au sud, ça s'appelait la zone libre. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de troupes allemandes, mais ça n'a pas duré très longtemps. En 1942, je crois, début 1942, les troupes allemandes ont aussi envahi le sud de la France. Et donc, je vivais avec mes parents dans un département du sud-ouest qui s'appelle le Lot, avec donc mes parents, mon grand-père paternel, qui ne parlait pas un mot de français. Donc, à partir de cette date-là, mes parents ont décidé de dire qu'il était sourd-muet, parce qu'il ne fallait pas qu'on puisse se rendre compte qu'il ne parlait pas français. Avec le plus jeune frère de mon père, qui était maintenant, on dirait, autiste. À l'époque, on disait qu'il était un peu bizarre, mais il était bon. Et puis, une jeune sœur, et puis deux autres frères qui étaient dans le maquis, dans la résistance, qui se battaient contre les Allemands. Et donc, quand la zone libre a été occupée, mes parents, qui ont compris que ça allait être très compliqué pour continuer à se cacher ailleurs, ont décidé de trouver une famille qui accepte de me prendre en charge. Et il y a eu beaucoup de familles comme ça qui, ne sachant pas s'ils pourraient survivre, ont décidé qu'avant tout, ils essaieraient de sauver les enfants. Donc ils ont trouvé, par le biais de... Il y avait des groupes de résistants dans tous les coins, donc sans doute par une association de résistants, ils ont trouvé une famille, mais qui n'était pas juste à côté, qui était à 80 kilomètres à peu près, qui était dans le département voisin, le département de la Dordogne. Et cette famille a accepté de prendre en charge un enfant ou plusieurs, il se trouve que c'était moi, parce que dans cette ville qui s'appelle Sarlat, le maire de la ville, qui était un des grands chefs résistants du secteur, avait organisé l'accueil de toutes sortes d'enfants, soit des enfants dont les pères étaient prisonniers en Allemagne, soit des enfants orphelins, soit des enfants juifs comme moi, et toutes les familles volontaires pouvaient accueillir un ou plusieurs enfants. J'ai donc atterri dans cette famille que personne ne connaissait. Hein. Mes parents ne les connaissaient pas. Moi, j'avais 3 ans et demi, donc inconnu au bataillon. Et je suis partie toute seule dans un autobus avec mes parents sur le trottoir et sous la garde du conducteur de bus qui devait être dans la confidence, je ne sais pas, j'ai jamais su. Partie dans cette famille, donc, qui m'a accueillie à bras ouverts, même si je ne la connaissais pas, et ça a été une grande chance pour tout le monde. D'abord parce que moi, j'ai été chouchoutée pendant toutes les années jusqu'à la fin de la guerre. En plus, ils étaient fabricants de conserves, donc pendant la guerre où tout le monde manque de tout, il y avait des réserves pour manger, donc c'était très bien. En plus, j'étais vraiment accueillie comme la petite fille de la famille. Le seul problème, c'est que comme il fallait... C'était dangereux pour tout le monde. Et après, bon, si vous me posez des questions, je vous expliquerai comment on l'a su. Mais quand je suis arrivée, la première chose qu'ils ont faite, c'est qu'on m'a changé mon nom d'origine. Parce que je m'appelais Bergmann au départ. Et Bergmann, ça sonne pas très français. Donc, on a décidé que je m'appellerais Delage. On m'a gardé mon prénom. Je m'appellerai Delage. Donc, il a fallu, à 3 ans et demi, que j'apprenne un nouveau nom de famille pour ne pas me tromper. Et puis, on a décidé que... Enfin, c'est pas moi, c'est la famille dans laquelle j'étais. Ils m'ont expliqué qu'il fallait que j'explique que je n'avais plus de parents, qu'ils étaient morts dans les bombardements, parce qu'il ne fallait pas qu'on puisse faire le lien entre ma famille et moi. Donc, je me suis retrouvée à 3 ans et demi, dans une famille inconnue, mais... une merveille de famille, avec un faux nom, avec plus de parents, et puis comme ça jusqu'à la fin de la guerre. Voilà. Et tout ça, ça s'est passé le mieux du monde, si l'on peut dire, compte tenu des circonstances. Mais il faut savoir quand même que, même si j'étais petite, je ne pouvais pas aller à l'école, parce qu'on ne pouvait pas se mélanger avec d'autres enfants.
Oui.
Ça veut dire, est-ce que t'as retrouvé tes parents ?
À la fin de la guerre, oui. Parce que justement, comme ils n'avaient plus à... S'embarrasser n'est pas le mot juste, mais à être obligé de faire attention à un enfant petit, ils ont pu continuer à se sauver, à se cacher, etc. Oui ?
Est-ce que tu avais des amis à l'âge ?
Des amis ? J'avais très peu d'amis pour la bonne raison que je ne pouvais pas sortir jouer avec les enfants dans des parcs ou ailleurs. J'avais une amie qui était dans la maison où nous habitions, donc dans cette famille. Sur le trottoir d'en face, il y avait un bistrot. Enfin, un bistrot. Un restaurant, on va dire. Qui n'était pas un restaurant chic, c'est pour ça que je dis un bistrot. Et ces gens-là avaient une fille qui avait 2-3 ans de plus que moi. Et c'était pratiquement la seule avec laquelle je pouvais jouer, parce que je ne pouvais pas aller ailleurs, quoi.
Les familles qui vous ont accueilli, c'était dans d'autres pays ou c'était dans le même pays ?
C'était en France, mais c'était dans le département de la Dordogne, c'est-à-dire à 80 km de l'endroit où je vivais avec mes parents.
C'est quoi votre prénom ?
Paulette. C'est ça, on ne me l'a pas changé.
Mais pourquoi maintenant vous vous appelez Madame Grenier ?
Parce qu'entre-temps, je me suis mariée. Alors en général, on prend le nom de son mari. Enfin, c'est l'habitude. On peut garder les deux si on veut.
Mais est-ce que tu as déjà vu des nazis ou Hitler ? Est-ce que tu as déjà vu des grands chefs ?
Hitler, je ne l'ai pas vu parce que, bon, j'étais petite. Des Allemands, oui, j'en ai vu quand j'étais petite, justement. Et dans des conditions difficiles parce que, je vous ai dit que la famille qui m'avait recueillie risquait, comme tout le monde, c'est-à-dire que les Juifs risquaient d'être arrêtés, déportés, assassinés, etc. Et puis les gens qui les aidaient, soit les résistants, soit les gens qui les aidaient, risquaient la même chose. Et donc la famille dans laquelle j'étais, le chef de famille, le monsieur, qui était un ancien médaillé de guerre de la guerre de 14, donc c'était un grand patriote, et il voulait résister d'une façon ou d'une autre. Donc c'est pour ça qu'il m'avait accueilli. C'est pour ça que, comme il disposait de réserves alimentaires, il portait des provisions à tous les groupes de résistants qui se trouvaient beaucoup dans les bois alentours, etc. Mais à la fin de la guerre, les divisions allemandes qui repartaient vers l'Allemagne ont vu une usine de conserve, ils se sont dit, bonne aubaine, on va s'arrêter, on va récupérer de quoi manger pour la route. Donc ils se sont arrêtés devant la maison, et le papy de la maison n'avait qu'une trouille, c'est qu'il rentre et qu'il me trouve, parce que c'était pas permis. Donc il est sorti devant la maison, il a parlementé longuement, et puis finalement, il leur a ouvert la cave, il leur a donné quelques cartons de conserve, et puis ils sont partis. Et puis quand, à la libération, moi j'appelle ça les résistants de la dernière heure, qu'il avait vu discuter avec le responsable de la division allemande, ont décidé que certainement il était ce qu'on appelait les collaborateurs, ceux qui avaient travaillé avec les Allemands. Donc il y a tout un groupe de résistants qui sont arrivés avec des fusils, des mitraillettes, qui voulaient le fusiller comme collaborateur. Et donc il n'a eu son salut que parce que le maire, qui le connaissait parce qu'ils étaient dans le même groupe de résistants, est allé le récupérer manu militari pour qu'il ne soit pas fusillé. Mais entre-temps, il lui avait arraché son drapeau français de la fenêtre, ce qui était pour lui la pire des injures, parce qu'un ancien croix de guerre, enfin, c'était pas possible. Donc, il a été tellement traumatisé, ce pauvre homme, que après toutes les décorations qu'on a voulu lui donner, la médaille de la résistance, il a tout refusé parce qu'il était complètement choqué. Il a vraiment eu la vie sauve, justement parce que il avait ce maire ami qui l'a sauvé.
Est-ce que votre père, il était parti à la guerre ?
Mon père, non. Non, il n'était pas parti à la guerre parce qu'à l'époque, d'une part, ils n'étaient pas encore français. Au départ, ils étaient étrangers. Et puis, comme vous le savez peut-être, comme ils étaient originaires d'un pays, quand ils habitaient en Europe de l'Est, sans jamais avoir déménagé, ils ont changé 3 fois de nationalité et de langue. C'est-à-dire qu'au départ, c'était l'Empire austro-hongrois. Donc, quand ils ont commencé à aller à l'école, ils parlaient hongrois. Puis après, pendant quelques temps, c'est devenu la Roumanie, mais ça n'a pas duré longtemps, donc ils n'ont pas été obligés d'apprendre le roumain. Et après, on a créé la Tchécoslovaquie, c'est devenu la Tchécoslovaquie. Donc, la fin de leur école primaire, ils ont dû la faire en tchèque. Donc, il a fallu qu'ils apprennent une autre langue. Et quand ils sont arrivés en France, ils avaient un passeport tchèque. Mais comme la Tchécoslovaquie avait été envahie par les Allemands au début de la guerre, ils sont donc devenus apatrides, c'est-à-dire qu'ils étaient considérés comme des réfugiés sans patrie. Et il a fallu attendre des années plus tard, dans les années 57, je crois, pour qu'ils soient naturalisés français.
Est-ce que tu te souviens de tes vrais parents ?
Ah, oui, bien sûr. Je les ai retrouvés après la guerre, hein. Donc, je m'en souviens, mais même quand j'étais petite, j'ai des photos et pendant 3 ans et demi, j'ai vécu avec eux.
Est-ce que tu devais faire croire que tu n'étais pas juif ou d'une autre religion pour éviter...
Oui. Parce que j'avais un faux nom, enfin... Puis d'ailleurs, la famille dans laquelle j'étais, ils ne m'ont jamais obligée à rien du tout, c'est-à-dire que... Ils savaient dans quelle religion j'avais été élevée. D'ailleurs, mes parents étaient très religieux. Moi, il y a longtemps que j'ai mis ça derrière moi, mais ça, c'est un autre problème. Mes parents étaient très, très religieux, donc bon. Mais chez eux, on ne m'a obligée à rien. Mais comme on m'avait changé de nom, donc j'étais pas censée avoir une religion. Par contre, comme j'avais pas le droit de sortir, j'avais pas le droit de sortir toute seule, d'aller jouer, etc. Quand il se passait quelque chose, par exemple, je me souviens qu'au moment de Noël, il y a une très belle cathédrale à Sarlat, il y avait une crèche magnifique. Donc on m'emmenait voir la crèche en m'expliquant que même si ça n'était pas ma religion, c'était quelque chose de culturel. Donc on m'emmenait voir ça, c'était joli, c'était une distraction.
Vous mangez que des conserves ?
Ah, dans ma famille d'accueil, non, on mangeait autre chose. Mais tu sais, c'était compliqué. Je vais vous montrer d'ailleurs. C'était très compliqué pour tout le monde parce que pendant la guerre, vous savez qu'il n'y a rien. Hein? Enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Mais quand on est à la campagne, eh ben, c'est plus facile quand même. Parce que les gens ont des jardins, parce qu'il y a des fermes qui ne sont pas loin. Bon. Chez mes parents, c'était très compliqué. En plus, comme ils étaient très religieux, qu'ils observaient strictement toutes les règles alimentaires, qu'ils ne pouvaient pas manger de viande parce qu'elle n'était pas tuée, le rituel, etc., qu'on ne trouvait pas de beurre, on ne trouvait pas de lait, on ne trouvait pas de rien du tout, c'était très compliqué. Après, dans ma famille d'accueil, c'était Byzance. Hein. Mais alors, je vous disais que c'était très compliqué. Je vais vous montrer ce que c'est. On avait des cartes d'alimentation. Ça, c'est une carte d'alimentation qui est à mon nom. Je ne sais plus en quelle année elle a été faite, en 41, je crois. Ce qui veut dire que pour acheter n'importe quoi, que ce soit de l'alimentation, des chaussures, un manteau, n'importe quoi, il fallait présenter cette carte. Et vous verrez qu'il y a aussi des tickets. Alors, ces tickets, ça ne servait pas à payer. Ça servait simplement à comptabiliser ce qu'on avait acheté dans le mois. Parce qu'on avait droit à une certaine quantité de choses pour un mois. Et quand on avait épuisé ces tickets, ben c'était terminé, on ne pouvait rien acheter. Ce qui fait que, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a eu beaucoup de ce qu'on a appelé le marché noir. C'est-à-dire que, par exemple, certains paysans qui avaient des surplus de nourriture, ils le vendaient, mais comme les gens ne trouvaient rien, ben ils le payaient plus cher. Et alors, autre particularité de cette carte d'alimentation que je vais vous faire circuler, qui est à mon nom, vous verrez qu'il y a un tampon rouge dessus, marqué « juif ». Parce que les conditions pour faire ses courses n'étaient pas les mêmes pour tout le monde. et pour les juifs en particulier, ils n'avaient pas le droit d'aller se servir dans n'importe quel magasin. Ils avaient certains magasins attitrés, ils n'avaient le droit d'aller que dans ceux-là. Et en plus, pas à n'importe quelle heure de la journée. En général, c'était entre 4h et 6h du soir. C'est-à-dire que tout le monde était passé avant et qu'il ne restait plus grand-chose après acheter. À la tête de l'Allemagne, vous savez qu'il y avait Hitler, chancelier Hitler, qui a été d'ailleurs élu démocratiquement. Et il avait décidé d'éliminer de la surface de la Terre tout un groupe de gens, dont les juifs, dont les homosexuels, dont les membres des sectes, je ne sais pas quoi, témoins de Jéhovah, dont les malades mentaux, enfin tout un tas de gens comme ça. Et il y avait en particulier aussi tout un tas d'interdictions. Alors là, voilà, il y a une liste d'interdictions qui sont des interdictions très particulière pour tous les juifs. Alors ça, c'est qu'un extrait. Hein. La liste était beaucoup plus longue. Mais je peux vous en dire certains, parce que c'est quand même aberrant. Donc, la première chose, ceux qui étaient français, ils étaient déchus de leur nationalité française. Ils n'avaient plus le droit d'être français. Après, ils n'avaient plus le droit de servir dans la fonction publique. C'est-à-dire que ceux qui étaient enseignants, qui étaient militaires, qui étaient tout ce que vous voulez, renvoyés. Après, ils n'avaient pas le droit non plus d'exercer des professions libérales. C'est-à-dire pas le droit d'être médecin, pas le droit d'être dentiste, pas le droit d'être infirmier, rien de tout ça. Et ils n'avaient pas le droit de changer de domicile. S'ils habitaient quelque part, ils ne pouvaient pas déménager. Ils n'avaient pas le droit de sortir après 8 heures du soir. Ils n'avaient pas le droit d'avoir un poste de radio. Ils n'avaient pas le droit d'avoir une voiture, une bicyclette. Ils n'avaient pas le droit d'avoir un téléphone. Ce que je ne peux pas vous dire encore. Et alors, en plus de ça, dès 1941, on leur a demandé... Tiens, je vous fais passer cette liste parce que c'est quand même assez parlant. Dès 1941, on a demandé aux Juifs d'aller s'inscrire dans les préfectures qui étaient, ou les mairies qui étaient le plus proches de chez eux. Pourquoi faire ? Pour pouvoir les comptabiliser et les retrouver. Donc, du coup, on avait leur adresse, on avait leur nom, et le jour où on voulait les arrêter, c'était très facile, on allait frapper à leur porte et c'était fini. Et en même temps, quand ils se sont déclarés, on les a obligés à porter, ce que vous avez déjà vu dans les livres, une étoile jaune. Voilà. Et celle-là, que je vais vous faire passer aussi, je l'ai mise sous plastique pour qu'on ne l'abîme pas. C'était celle que portait ma mère. Vous verrez, derrière, à la fin de la guerre, quand elle l'a décousue, elle a laissé les fils pour dire vraiment, on verra que je l'ai vraiment portée. Et alors, il fallait la mettre sur le côté gauche, comme ça, visible. Et sur chaque couche de vêtements, en hiver, par exemple, si vous aviez un pull, un manteau, je ne sais pas quoi, il fallait la mettre sur chaque couche.
Vous aviez quel âge quand la guerre s'est terminée ?
C'est terminé ? J'avais 6 ans. Donc c'est à cet âge-là que je suis rentrée chez mes parents. C'est-à-dire pas immédiatement, parce qu'à la libération... Alors pendant toutes les années de guerre, mes parents ne savaient pas du tout où ils étaient passés. Hein, parce qu'il n'était pas question qu'on communique. Puis je vous ai dit, ils n'avaient pas de téléphone. Déjà, les gens avaient... Il n'y avait pas beaucoup de téléphones à l'époque. Hein. Il n'y avait vraiment que les gens un peu aisés ou les entreprises qui avaient des téléphones. Mais les particuliers, ils en avaient peu. Mais en plus, eux, il n'était pas question qu'ils téléphonent. Il n'était pas question qu'on leur téléphone. En plus, on ne savait pas exactement s'ils étaient restés sur place ou s'ils avaient déménagé. Donc pendant toute la guerre, on n'a eu aucun contact. Et puis après la libération, donc mon père a téléphoné pour dire qu'ils étaient toujours en vie. Ils sont venus me voir. Mais comme ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient retrouver dans leur appartement d'origine, il a été décidé que je resterai encore, puisque la guerre est terminée au printemps, enfin en juin, il a été décidé que je resterai dans cette famille pendant tout l'été et que je rentrerai chez mes parents pour rentrer à l'école où je n'étais jamais allée. Donc, je suis rentrée en fin septembre pour rentrer à l'école. Et c'était assez compliqué parce que eux, quand ils sont rentrés, je vous ai dit que quand ils sont partis, tout au début de la guerre, Ma mère avait bien pris soin de tout boucler, tout fermer à clé. Elle avait emporté le strict nécessaire. Puis elle était partie avec toutes les clés des armoires. Le seul problème, c'est que quand elle est rentrée à la fin de la guerre, ben elle avait bien les clés dans la poche, mais il n'y avait plus d'armoire. Il n'y avait plus rien. Parce que pendant toute la guerre, il y a eu le responsable de la poste allemande qui a occupé leur appartement. Et à la fin de la guerre, quand il a été renvoyé en Allemagne, il a considéré que tout ce qui était dans l'appartement, c'était à lui. Donc il est parti en embarquant tout. Et donc, heureusement qu'ils ont pris le temps de s'installer. Il a fallu qu'ils rachètent des meubles, qu'ils rachètent, enfin, le strict minimum, un lit, de quoi faire la cuisine. Et en plus, toujours pareil, autre époque que vous avez du mal à imaginer, il n'y avait pas de chauffage central dans les appartements. Enfin, et dans l'Est, je ne sais pas si vous savez que... Enfin, maintenant, il y a le réchauffement climatique, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Donc, cette année-là, en particulier, pendant l'hiver, il a fait moins 14, moins 15. Il n'y avait pas de chauffage central, donc c'était vraiment très compliqué. Et puis, les fameux tickets de rationnement, ils ont duré jusqu'en 1946. Donc, c'était très difficile de se nourrir. Donc, heureusement qu'il y avait toujours ma famille d'accueil qui nous envoyait des colis régulièrement pour pouvoir passer le cap, quoi. Qui nous envoyait des chaussettes de laine, des trucs comme ça, parce qu'on ne trouvait rien.
Elle entend plus la main, toi.
Mais quand vous deviez aller faire les courses toute seule, vu que vous avez votre carte de rationnement là.
Alors, je ne faisais pas les courses parce que je ne sortais pas toute seule, jamais de la vie. Non seulement je ne sortais pas toute seule, mais en plus, depuis que j'étais toute petite, minuscule, mes parents m'avaient expliqué que quand on était dehors, on n'avait pas le droit de pleurer. Parce que, ah ouais, parce que quand on pleure, il peut toujours y avoir quelqu'un qui te pose la question de savoir pourquoi tu pleures, et si tu dis parce que j'ai peur, eh ben c'est fichu pour tout le monde. Donc interdiction de pleurer dehors, à la maison c'est autre chose, mais dehors, pas le droit. Oui, mademoiselle, là-bas.
Là, je sais pas, n'importe quel. Toi, t'as encore rien demandé, je crois. Comment vous avez fait pour conserver toutes ces affaires?
Toutes ces affaires, quoi? Les documents, là?
Pas que aussi, par exemple, les toiles que votre mère avait portées.
Ah ben, c'est elle qui l'a... Tu sais, c'était... Il leur restait plus rien. Alors, ce qui leur restait, c'était leur patrimoine, tu vois? C'était les toiles, c'était... Tiens. Moi, on m'a changé mon... Je profite... Je passe du coq à l'âne, mais... Une carte d'identité, par exemple. Je vous ai dit que moi, on m'avait changé mon nom. Mes parents, ils ont changé de nom aussi pour essayer de... Alors, comment on se procurait des fausses cartes d'identité? Parce que celle-là, c'est la carte d'identité pendant la guerre de ma mère. Mais alors, ce qu'il y a dessus, c'est un faux nom. La seule chose qui soit vraie, c'est sa photo. Tout le reste, c'est faux. Et comment on faisait ces cartes d'identité, à votre avis?
Oui. C'était les résistants qui les faisaient ?
Exactement. C'était des résistants. Donc, moi, personnellement, j'ai rencontré est un grand mot, un monsieur qui était commissaire de police à la préfecture de police de Paris. Et pendant des années, il a fabriqué des fausses cartes d'identité comme ça. C'est-à-dire qu'il travaillait dans la journée à la préfecture de Paris, normalement, sous le... chapeauté par les Allemands, et puis vers 10h du soir, il y retournait et il fabriquait des fausses cartes d'identité. Et vers la fin de la guerre, en 1944, il a été dénoncé par ses collègues et il a fini la guerre dans un camp de concentration à Bergen, à Mauthausen, je crois. Et alors, vous voulez savoir comment j'ai rencontré ce monsieur? Parce que je passe du coq à l'âne, mais c'est aussi intéressant. Parce que tous ces gens... comme la famille dans laquelle j'étais, qui ont sauvé des personnes, que ça soit une, que ça soit un groupe. Après la fin de la guerre, les gouvernements, etc., ont réfléchi pour savoir comment on pouvait remercier ces gens qui avaient risqué leur vie. Donc, on a décidé de leur décerner un diplôme. Ce diplôme, c'est le diplôme des justes. Parce que les justes, qu'est-ce que c'est qu'un juste? C'est quelqu'un qui a sauvé ne serait-ce qu'une seule vie. Parce que dans la Bible, on dit « qui sauve une vie, sauve l'humanité entière ». Donc, ben oui, parce que si tu sauves une vie, ben tu peux après perpétuer l'humanité, etc. Donc, on a décidé de créer cette distinction qui s'appelle le diplôme des justes. Et c'était pour savoir où est-ce qu'on allait mettre cet organisme qui allait se pencher sur la décision de savoir qui l'a mérité et qui ne l'a mérité pas. Il a été décidé que le siège serait à Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des justes dans tous les pays d'Europe. Il y en avait en France, mais il y en avait en Allemagne, il y en avait en Pologne, il y en avait en Hongrie, il y en avait partout. Donc ça a été centralisé en Israël. Et cet organisme s'appelle Yad Vashem. Et bien sûr, quand ça a été créé, mais ça a été créé dans les années, je ne sais plus, 60, 70, je ne sais pas, très vite, j'ai eu... Enfin, pas très vite, mais... À cause d'une circonstance très particulière, j'ai eu un sursaut et je me suis dit, il faut absolument que la famille dans laquelle j'étais soit décorée de cette médaille des justes. Donc j'ai fait une demande, ce qui a duré quand même 2 ans d'investigation, parce qu'il fallait que les gens de la ville témoignent pour dire qu'ils savaient que j'avais été sauvée, qu'ils n'avaient pas touché d'argent pour me garder, que ça avait permis que je survive, que ça avait permis à mes parents, etc. Donc finalement, en 93, ils ont été décorés de cette fameuse médaille des justes. Alors je vais vous montrer ce que c'est. Donc il y a un diplôme, qui est celui-là. Et alors vous remarquerez qu'il est écrit en 2 langues. Alors je vous ai dit, comme le siège de cet organisme est à Jérusalem, c'est écrit en hébreu d'un côté. Et puis de l'autre côté, c'est écrit dans la langue du pays de la personne qui a été décorée. Et il y a, vous verrez, le nom du monsieur et de la dame chez qui j'étais, qui étaient Jeanne et Paul Berthoumerou. Et donc, ils ont eu ce diplôme et ils ont eu une médaille qui correspond au diplôme, qui est la médaille des justes. Et non seulement ça, mais à Paris, par exemple, il y a un musée qui s'appelle le Mémorial de la Shoah, qui se trouve dans le 3e arrondissement, sur lequel il y a, sur le mur extérieur, tout un tas de plaques de marbre sur lesquelles sont gravés le nom de tous les justes de France. Et donc, leur nom figure là-dessus, à l'année à laquelle ils ont été décorés. Oui ?
Mais ça veut dire que la médaille, non seulement de une, c'est une vraie.
La médaille, elle est vraie ?
Oui. Oui. Et ça veut dire qu'aussi, avant... Ça veut
si tu enlèves ta main, je t'entends mieux.
Ça veut dire qu'avant qu'ils meurent, ils te l'ont donné.
Non, mais ils étaient malheureusement déjà morts. C'est leur fille qui l'a touchée pour eux, mais ça n'empêche pas, ça, à titre posthume, on peut dire, mais ça n'empêche pas, hein, ça n'enlève rien à leur mérite. C'est pas parce qu'ils étaient morts entre-temps. Tu sais, ils sont morts... Le papy Paul, il est mort, il avait 94 ans déjà, alors...
Il est né en 1800.
Oui. Puisqu'il avait fait la guerre de 14, il n'était pas tout jeune déjà.
Il y a des questions là-bas.
Est-ce que c'était sécurisé de sortir ?
Je n'entends pas.
Est-ce que c'était sécurisé de sortir acheter de la nourriture dans un magasin à la Seconde Guerre mondiale ?
Rien n'était sécurisé. Hein.
Ah.
Il fallait se méfier de tout et de tout le monde.
Est-ce que quand vous sortiez, il y avait des gens qui essayaient de vous tirer dessus.
De me tirer dessus ? D'abord, je ne sortais pas toute seule, déjà pour commencer. Et puis, dans la petite ville dans laquelle j'étais, il n'y a pas eu tout de suite des armées allemandes qui occupaient. En tous les cas, moi, je ne les voyais pas, puis je ne sortais pas toute seule. Hein. Tu as déjà vu des petites filles de 4-5 ans qui vont se balader toutes seules dans la rue ? Oui. Non, c'était pareil à l'époque. Et c'était encore pire.
Je voulais dire, les personnes qui ont dénoncé les juifs qui étaient cachés, qu'est-ce qu'ils ont eu après la guerre ?
Ah, ce qu'ils ont eu après la guerre ? Compliqué. Il y en a certains qui... Bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, comme les résistants de la dernière heure, ils ont... ce qu'on appelle tourner leur veste à la fin de la guerre, ils sont passés au travers. D'autres ont été arrêtés, les grands, les grands chefs, par exemple, les fonctionnaires français qui étaient des alliés officiels de l'armée allemande occupante, ils ont été arrêtés, ils ont eu un procès, certains ont été condamnés gravement, il y en a même un ou deux qui ont été condamnés à mort. Mais encore une fois, il faut se mettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire que depuis, heureusement, on a supprimé la peine de mort. Mais là, tout de suite après la guerre, les gens étaient encore traumatisés. Il y a eu des milliers et des milliers de morts. Il y a eu,
enfin, 50 millions, si je ne me trompe pas, la deuxième.
Combien tu dis ?
50 millions à la deuxième. Si
50 millions. Dont 6 millions et demi de juifs quand même. Hein.
Ah.
Oui. Dont, rien qu'en France, pour une grosse arrestation, dont on va parler peut-être plus tard, qui était ce qu'on a appelé la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942, il y a eu plus de 11 000 enfants, petits-enfants, qui ont été arrêtés avec leurs parents. Oui. Donc, ces gens-là, tout de suite après la guerre, les gens qui avaient survécu, ils étaient traumatisés. Donc, c'est normal qu'ils veuillent des jugements péremptoires. Mais bon, maintenant, on a changé de méthode et puis ça ne règle aucun problème de parce que tu as tué quelqu'un, qu'on te tue aussi, ça ne fait pas revivre la personne que tu as tuée. Hein, ça ne change rien. Mais il faut se remettre dans le contexte. Et alors, tiens, justement, je vais vous montrer, parce qu'à la fin de la guerre... Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un procès qui a eu, c'était en Allemagne, il y a eu le procès à Nuremberg. Et au cours de ce procès, alors ça, c'est procès, c'était en Allemagne, et c'était pour les grands dirigeants, je vais te le faire passer si tu veux, les grands dirigeants allemands, c'est-à-dire, alors Hitler, il s'est suicidé tout seul, il n'a pas attendu le procès. Donc, il avait la trouille de passer en jugement. Mais il y en avait plein. Hein. Il y avait Göring, qui était son bras droit. Il y avait Rudolf Hess. Il y avait... Enfin, bon, il y en avait un paquet. Voilà, un paquet. Et alors, ces gens-là, contrairement à ce qui se passe pendant la guerre, où il y avait des fusillades comme ça, sans discussion, ils ont eu un procès en bonne et due forme. C'est-à-dire qu'il y avait trois procureurs qui organisaient ce procès et qui représentaient les trois pays alliés pendant la guerre. C'est-à-dire qu'il y avait un Français, un Anglais et un Américain. Et durant ce procès, les gens sont venus témoigner. Et pour la France, il y a eu une dame dont le discours au procès de Nuremberg est archivé aux archives de la ville d'Ivry. Elle a témoigné parce qu'elle était résistante, elle. C'était Marie-Claude Vaillant-Couturier. Et elle a été déportée dans un camp qui était en principe réservé aux femmes. Et elle a raconté au procès tout ce qu'elle avait subi, tout ce que les gens avaient subi. Et donc, on a gardé, comme elle était députée du Val-de-Marne, bien après la guerre, on a gardé son témoignage pour que ça serve de témoin. Voilà. Et alors, à ce procès, toujours pareil, les gens ont été jugés en fonction de ce qu'on avait contre eux. C'est-à-dire que les plus virulents, comme Göring ou d'autres, ont été condamnés à mort, c'est vrai. Encore une fois, tout de suite après la guerre. Et puis d'autres ont été condamnés à des peines en fonction de ce qu'on avait à leur reprocher. Et certains ont même été acquittés parce qu'on n'a pas pu fournir de preuves, vraiment... qu'ils avaient participé personnellement à des massacres. Donc c'est la différence entre une justice équitable et une justice expéditive. Si vous voulez voir ça, je veux bien vous le passer. Mais c'est en très mauvais état, je suis désolée.
J'ai trois questions.
Oui.
De quelle origine était votre famille d'accueil ?
Français, archi-français.
Vos parents, ils étaient morts, ils avaient quel âge ?
Mes parents, quand ils sont morts ? Oh, bien après la guerre, hein. Mon père avait, je sais plus, 72-13 et ma mère avait 86. Mais c'était bien après la guerre, hein. Longtemps après. Oui, ta troisième question, c'est quoi ? Tu l'as bien vu.
Tu réfléchis. Moi, j'ai deux choses à dire.
La première, c'est qu'est-ce qui se passait si on n'avait pas assez d'argent pour acheter les toiles juives?
Ah ben écoute, je suppose qu'on ne la vendait pas, mais que... Alors je ne sais pas combien ça coûtait, ne me demandez pas. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que tu la portes ou que tu ne la portes pas, c'était aussi dangereux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont refusé de la porter. Hein. C'était une forme de résistance. Mais quand il y avait des contrôles, ils risquaient autant s'ils la portaient ou s'ils ne la portaient pas. Il faut savoir, par exemple, à Paris, hein, pour ne citer que Paris, dans le lot des interdictions diverses et variées, les Juifs n'avaient pas le droit de monter dans n'importe quel wagon du métro. Ils étaient obligés de monter dans le dernier wagon de la rame. Alors qu'ils aient... S'ils avaient une étoile, bon, s'il y avait une arrestation, ben c'était très facile, on ramassait tous les gens qui étaient dans le dernier wagon. Et puis les autres, ceux qui ne portaient pas l'étoile et qui se baladaient sans, ben si on leur demandait leur papier ou s'ils avaient été recensés d'une façon ou d'une autre, ça ne les protégeait pas pour autant. Hein.
Mais où vous avez eu tous ces objets? Vous les avez on vous les a donnés ou vous les avez trouvés? Ou c'est vos parents qui vous les...
J'ai cherché parce que quand on raconte des histoires qui ne sont pas des histoires d'ailleurs, qui sont la réalité, c'est mieux de montrer des preuves parce que vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. Hein. Donc si j'ai des trucs qui le montrent, ben c'est que c'est vrai. Alors, il existe des archives, il existe, je vous ai dit, ce musée à Paris qui s'appelle le Mémorial de la Shoah, où ils ont répertorié, j'étais pas plus tard qu'hier d'ailleurs, où ils ont répertorié tout un tas de documents, les fiches des gens qui ont été déportés, et alors il y a, à l'intérieur, dans la cour, il y a des murs sur lesquels sont gravés le nom de toutes les personnes qui ont été arrêtées en France et qui ont été déportées. Il y en a des milliers. À l'extérieur, donc je vous ai dit, c'était le nom des justes. Et puis à l'intérieur, vous avez toutes sortes de documents, toutes sortes d'expositions. On peut se documenter sur tout. Hein. Si ça intéresse, on peut. Et puis, il y a aussi alors un autre musée, parce que... Quand je vous en ai pas encore parlé, mais quand les gens étaient arrêtés, ils étaient concentrés d'abord en région parisienne, dans une ville qui s'appelle Drancy, qui est en banlieue parisienne. Et à Drancy, un groupe d'immeubles qui était l'équivalent de HLM maintenant, ont été réservés pour parquer tous ces gens. Et il existe, parce que c'était très bien organisé, hein. Les Allemands, ils ont une chose pour eux, c'est qu'ils sont très organisés. Et chaque personne qui rentrait, que ça soit dans un camp, dans un autre, etc., il y a une fiche. Et c'est comme ça qu'on a pu retrouver, par exemple, tous les enfants d'Ivry qui ont été déportés. Parce qu'il suffisait d'aller aux archives nationales, de consulter le fichier du camp de Drancy, et il y a le nom de tous les enfants. Alors... il y a toute une liste. Je peux vous montrer ce que c'est qu'une fiche, par exemple. Là, vous avez une fiche d'un des enfants qui figure sur l'école, je crois que c'est l'école Maurice Thorez, qui s'appelait, je ne sais plus si c'est ça là, qui s'appelait Rick Zivol. Bon, ben, on a retrouvé la fiche de cet enfant qui se trouvait aux Archives nationales. Il y a son nom, son adresse. Alors là-dessus, elle ne figure pas, sa date de naissance. Et puis, en bas de cette fiche, ce qu'on ne voit pas ici, parce que ça, c'est le fichier de... C'est pas le fichier de Drancy, mais c'est le fichier de la préfecture de police. En bas de ces fiches individuelles, il y a un gros tampon rouge sur lequel il y a marqué TA. Et ça veut dire quoi, TA? Ben, moi non plus, je savais pas, hein. J'ai appris parce que je connaissais une archiviste aux Archives nationales qui m'a expliqué ce que c'était. TA, ça voulait dire transport Auschwitz. Auschwitz, c'était le principal camp d'extermination. Et quand sur l'affiche, il y avait marqué TA, ça voulait dire, quand on était un enfant, qu'en tous les cas, on n'en revenait jamais. Parce que les enfants, on disait qu'ils avaient été expédiés dans les camps pour travailler, mais qu'est-ce qu'un enfant de 1 an ou 4 ans peut aller travailler? Quand ils arrivaient, ils étaient tués tout de suite.
Hein. J'ai deux questions. Ma première, mais apparemment, Hitler, il voulait créer une race spéciale avec les yeux bleus et je ne sais plus avec quels cheveux. Blond, oui. Mais si, par exemple, un juif avait les yeux bleus et les cheveux blonds, est-ce qu'il était déporté ou il était...
Il était juif, oui.
Ok. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'après la guerre, tes parents, ils ont pu récupérer leur travail officiel?
Leurs affaires?
Leur travail. Oui et non, on va dire. Parce que, bon, ma mère travaillait pas. Tu sais, à l'époque, les dames, elles travaillaient pas beaucoup. Hein. C'était pas la mode. Mon père, il était commerçant ambulant. C'est-à-dire qu'il avait pas de magasin. Il se baladait parce que dans l'Est, c'était la mode. Il y avait, enfin, c'était la mode, c'était l'habitude. Et il y avait beaucoup de petites villes minières où il y avait beaucoup de mineurs, de fer, de charbon. Et donc, mon père, il était commerçant. Il leur portait... Il avait des clients qui leur disaient, ben, j'ai besoin d'une paire de draps ou j'ai besoin d'un costume parce que mon fils se marie ou des trucs comme ça. Donc, il allait chercher chez des grossistes ce dont il avait besoin. Il faisait des petits paquets. Et puis, il partait comme ça avec le bus pour aller voir ses clients. Donc, il faisait déjà ça avec son père avant la guerre. Et après la guerre, il a recommencé la même chose. Mais c'est pour vous dire que en faisant ce métier-là, on ne devient jamais très riche, hein, parce que les gens à qui il vendait des trucs, ils étaient encore plus pauvres que lui. Alors, il les faisait payer, à l'époque, je crois qu'il faisait payer 40 francs, anciens francs, par mois. Alors, quand il devait, je sais pas moi, 300 francs, t'imagines combien de temps ça prenait pour qu'ils payent leurs dettes? Ben, tu divises, je sais pas, 40 par 300 et tu fais le calcul. Enfin bon, ça durait très longtemps, hein. C'est pour ça que le jour où il est mort, il avait encore des milliers de francs, puisque c'était encore en francs, qu'il n'avait pas récupéré parce que les gens n'avaient pas fini de payer leurs dettes. Hein, c'est comme ça.
Oui. Est-ce que le père de ton ami a fait la guerre?
Est-ce que
le père de ton ami a fait la guerre?
Le père de mon ami, je sais pas quoi. Quel ami?
Ta seule amie? Est-ce que le père de ta seule amie a fait la guerre?
Non, il n'a pas fait la guerre parce que je crois qu'il était trop âgé
pour aller à la guerre. Il me semble. Hein.
Mais comment vous avez fait pour vous soigner quand, vu qu'il n'y avait pas de médecin ni infirmière avant?
C'est pour ça que, par exemple, j'ai tout un tas de trucs qui ne sont pas... pas fini, mon médecin me dit toujours, mais ma pauvre dame, vous n'êtes pas fini. Parce que, par exemple, quand on avait une bronchite, ben, d'abord, les antibiotiques, ça n'existait pas à l'époque. Hein. Ou ça existait peut-être pour les militaires, mais bon. Donc, on se soignait comme on pouvait. Moi, je me souviens, quand j'étais encore avec mes parents, ma mère a eu la diphtérie, qui est une maladie, une grosse infection de la gorge avec la toux et tout. Tu sais comment elle s'est soignée? Parce que ça fait des membranes dans la gorge et puis on ne peut plus respirer. Ben, elle mangeait des biscottes toute la journée pour arracher les peaux qu'il y avait pour pouvoir respirer. Donc on se soignait comme on pouvait. Et puis après, quand j'étais dans ma famille d'accueil, alors là, il y avait des médecins. Et alors, en particulier, et ça, je le raconte dans ce que je suis en train de raconter par écrit, il y avait un médecin qu'on appelait de temps en temps quand j'étais malade, qui était originaire d'Alsace. Et ce docteur, qui s'appelait Nesman d'ailleurs, parce que j'aime bien citer son nom, parce qu'il faut qu'on se souvienne de lui aussi, il avait un cabinet médical, mais par ailleurs, il avait émigré en Dordogne parce qu'il n'avait pas voulu se soumettre aux Allemands qui avaient complètement occupé l'Alsace. Donc, il est venu s'installer en Dordogne. Il avait déjà fait ça pendant la guerre de 14. Mais bon, il était... Alors, à ce moment-là, il était parti chez le docteur Schweitzer à Lambaréné. C'était plus loin. Là, il est venu s'installer en Dordogne. Et en même temps, il était un grand militant de groupes de résistants. Et donc, bon, la famille chez qui j'étais, quand j'étais malade, on l'appelait. Mais en 1943, lui aussi, il a été dénoncé. Il a été dénoncé, arrêté par la Gestapo allemande. Il a été emmené dans une prison à Limoges. Il a été torturé pendant 4 jours. Et on n'a jamais retrouvé son corps. Il a dû être massacré, enterré, on ne sait pas. Je suis en rapport encore avec un de ses fils, le dernier. Et ça a été terrible parce que c'est pour vous donner simplement une idée de ce qu'étaient les conditions de vie à l'époque. On n'a jamais retrouvé son corps. Il avait 5 enfants. À la fin de la guerre, donc, lui, il était porté disparu. Mais porté disparu, pas enterré nulle part, rien du tout. Sa femme, elle n'a pas pu obtenir le statut de veuve de guerre, puisqu'on ne l'a pas retrouvé. Il était disparu. Donc, elle n'avait pas droit à une pension, elle n'avait pas droit à des aides, elle avait droit à rien. Donc, alors que c'était des gens qui vivaient relativement bien, elle a été obligée d'aller travailler en usine pour nourrir ses 5 enfants. Heureusement, on a reconnu ce qu'il avait fait. Et maintenant, sur la maison qu'il habitait, il y a une grande plaque avec son nom et les explications de ce qui avait été fait.
Et les gens qui dénonçaient les juifs et les gens que... Enfin, les habitants. On les appelait les fumiers, c'est ça ? On les appelait les fumiers à l'époque.
On les appelait surtout les collabos à l'époque. Je sais pas comment on les appelait.
J'ai 2 questions. Est-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, vous avez eu peur ou pas ?
Si j'ai eu peur, bah écoute, oui. Hein. Même si j'étais petite, tu sais, quand tu vois que... Bon, la fois où on est venu arrêter le monsieur dans la maison dans laquelle j'étais... On m'avait planqué dans une chambre avec interdiction de mettre mon nez à la fenêtre, bien sûr. Hein. Et puis, une petite fille de 6 ans, elle fait quoi ? 5 ans et demi, elle fait quoi ? Elle regarde quand même. Hein. Alors, on ouvre le rideau. C'est la seule fois en toutes les années que j'ai passé chez eux, je me suis ramassé une belle taloche. Mais c'était mérité. Hein. Mais j'ai vraiment eu la trouille, ça, ce jour-là. Parce qu'on s'est dit, si jamais ils rentrent, ils fusillent tout le monde, même si la guerre était quasiment finie. Hein. Oui.
Si par exemple on est juif, ensuite on se convertit, mais on a toujours nos papiers juifs et la police, ça nous attrape.
Ça compte pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui, c'est vrai, pour essayer de passer au travers les mailles, ils ont fait baptiser leurs enfants. Parce que dans tous les justes qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de congrégations religieuses, par exemple, de dignitaires de l'Église. Il y avait en particulier, je ne sais pas s'il était évêque, archevêque de Lyon, qui s'appelait Monseigneur Saliège, qui a été aussi décoré de la médaille. Ils ont vraiment sauvé des tas de gens, c'est-à-dire qu'ils les ont... Ils leur ont donné des certificats de baptême, etc. Mais ça ne servait pas à grand-chose, parce que il y avait ce qui s'appelait le certificat de non-appartenance à la race juive. C'est pas, il fallait pas prouver que tu étais juif, il fallait prouver que tu n'étais pas juif. Et comment on faisait pour prouver ça ? Non. Il fallait pouvoir prouver que tes 4 grands-parents, 4, hein, n'étaient pas juifs. Alors, c'est pas évident. Alors, même si on fait baptiser les enfants en dernière minute, ça ne change rien au problème. Hein.
Oui. Mais est-ce que vous aviez des armes à feu chez vous pour vous défendre au cas où ?
Moi, à mon âge, j'avais pas d'armes à feu.
Non, mais votre famille d'accueil.
Je pense pas qu'il en avait. Et même s'il en avait, moi, j'ai jamais vu parce que c'était des gens non violents. Hein, et je pense qu'il aurait jamais tiré sur quelqu'un. Voilà.
Moi, j'ai peur des armes à feu. C'est quand on est né pendant la guerre, on a peur des armes à feu.
Mais vous êtes né le 22 ou 23 août.
Oui,
le 21
août.
Pourquoi ? Qu'est-ce que ça change ? Parce que la guerre a été déclarée le 1er septembre. Quand je vous dis 10 jours avant, c'est pas des blagues. Hein.
C'est ce qu'il a voulu vérifier. Je crois qu'il voulait votre date de naissance.
Tu veux être sûr que je te raconte pas des histoires ? C'est promis.
Est-ce que vous avez déjà eu des bombardements là où vous habitez?
Alors, j'ai vécu des bombardements. Pas vraiment. Bah, dans la famille où j'étais, non, il n'y a pas eu de bombardement. Mais alors, il faut dire que... Je vous ai dit que mes parents étaient très respectueux de la religion, donc ils ne mangeaient pas de viande, etc. Puis quand j'étais encore avec mes parents, c'est-à-dire que j'avais à peine 3 ans, ma mère a décidé un jour de partir à quelques kilomètres de là, dans la famille d'un de ses beaux-frères, où il y avait un boucher qui pouvait leur vendre de la viande traditionnellement, ce qu'on appelle cachère. Donc nous voilà partis dans cette autre petite ville. Et puis il y avait là plusieurs membres de notre famille. Et puis un jour, on était à table et avec ce qu'ils avaient fait, qu'ils avaient trouvé, je ne sais pas quoi, on en était au dessert. Je ne sais pas, ma mère avait fait un truc avec des pommes, un espèce de gâteau avec des pommes, enfin bon. Et puis tout d'un coup, il y a eu une alerte au bombardement. Alors tout le monde est descendu à la cave, mais comme moi j'étais haute comme 3 pommes, ils m'ont oublié. Alors ils sont descendus à la cave, et puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis planquée sous la table, en attendant que ça se termine. Mais comme j'étais sous la table et que tout le monde était parti, ben, par-dessus la table, j'ai piqué tous les morceaux de gâteau aux pommes qui étaient sur la table. Et oui, c'est ça les petits-enfants. Hein. Et puis quand ils sont remontés de la cave, et ben, qu'est-ce qui se passait? Moi, j'étais assise sur une chaise avec un bidon comme ça et je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je ne pouvais plus bouger. Voilà. Ben oui, mais parce que tu sais, même si c'est la guerre, les enfants, ça reste des enfants. Hein. C'est pour mettre une touche de fantaisie dans cette histoire sinistre. Mais c'est la vérité. Et depuis, tu sais, chaque fois qu'il y avait ce gâteau aux pommes dans la famille, on me disait « Oh, on plante tout parce qu'elle va tout manger
». J'ai 2 questions. Ma première, c'est est-ce que ton ami ou quelqu'un de ta famille a été déporté dans un camp?
Ah, dans ma famille, oui, il y a 22 personnes qui ont été déportées. Entre mon grand-père maternel, mes oncles, mes tantes, les cousins, les frères de mon père, enfin, c'est 22.
Et ma deuxième question, c'est... Est-ce que apparemment, ils ont créé... un musée, non, ils n'ont pas créé un musée, ils ont gardé le camp d'Auschwitz pour montrer la réalité. Est-ce que tu l'as déjà visité?
Non, j'y suis pas allée parce que. Enfin bon, chacun fait comme il veut. Mais depuis, c'est devenu un musée, c'est vrai, mais c'est devenu un musée bien propre. Tu vois, c'est bien nettoyé, c'est bien. Il y a des fleurs partout, c'est très très bien. Et je trouve que ça ne rend pas la réalité. Et il y a un film d'ailleurs qu'on a projeté il y a quelques années à Ivry pendant la semaine de la mémoire, qui a été fait par une ancienne résistante qui était l'amie de Simone Veil, qui s'appelait Marceline Loridan Evans, et qui a elle-même été déportée à Auschwitz. Et elle a fait un film qui s'appelle La petite prairie au bouleau, où elle raconte de façon à peine romancée un voyage qu'elle a fait, mais bien, bien plus tard, parce qu'elle a été convaincue par des amis pour y aller voir. Et elle se balade dans le camp, enfin, c'est une comédienne qui joue son rôle, mais elle se balade dans le camp et elle se met dans les ouvertures des baraques et elle hurle en disant « Je suis revenue, mais je ne reconnais plus rien ». Par exemple, les endroits... Bon, il n'y avait pas de toilettes, il y avait des espèces de planches de bois avec des trous, et puis ils se mettaient là-dessus pour faire leurs besoins. Au bout d'un moment, vous imaginez bien que c'était d'une propreté très, 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 très relative. Ça sentait abominablement mauvais partout. Maintenant, tout est nickel, tout est nettoyé, tout est propre, donc ça n'a plus rien à voir. Et puis... Bon, il y a des voyages qui sont organisés plusieurs fois par an, y compris pour des élèves de grande classe, etc. Pour eux, c'est sûrement bien, parce qu'ils se rendent peut-être mieux compte de ce que c'était. Mais moi, ça ne m'apportera rien, si ce n'est de voir dans des vitrines toutes les valises des gens qu'ils ont récupérées, des montagnes de cheveux de gens qu'ils ont assassinés, des montagnes de...
Bon, si ce n'est pour se rendre malade, ça n'apporte rien de plus que ce qu'on sait, quoi. Pour ça que je ne veux pas y aller, mais ça ne concerne que moi. Par contre, je suis allée dans un camp qui se trouve en Alsace, qui s'appelle le Struthof, qui n'est pas loin de Strasbourg, parce que ça, c'était pas très loin de l'endroit où j'habitais. Et je voulais une fois emmener mes enfants dans un camp pour qu'elles voient ce que c'est. Alors là, c'était pareil, c'était tout bien propre, avec des petites fleurs, avec tout magnifique. Mais il y avait quand même ce qu'on appelait les fours crématoires, c'est-à-dire que les espèces de grands fours dans lesquels on enfournait les cadavres pour les brûler pour qu'il ne reste pas de traces. Donc ça leur a permis de voir que tout ça existait vraiment, quoi. Parce que quand on te le raconte, bon, ça paraît tellement impensable qu'on ne le croit pas. Mais quand tu le vois, c'est autre chose.